J'ai entendu un acteur dire qu'il avait eu beaucoup de chance parce que par sa profession, il avait pu vivre beaucoup d'existences différentes. En fait, ce privilège est offert à tout le monde, du moins à ceux qui se souviennent de leurs rêves. Seulement quelquefois, on préférerait ne pas s'en rappeler. Ce fut le cas du roi Nabucodonosor qui a fait un bien vilain rêve, en fait un cauchemar. Parce que même s'il a plutôt bien commencé, il a vite très mal tourné. On peut être certain que le roi aurait voulu l'oublier aussi vite que possible, mais malheureusement, il se souvient de tous les détails qui le hantent et le travaillent, car il sent que cet arbre immense qu'il a vu s'élancer vers le ciel et qui est coupé sur l'ordre des dieux a un caractère prémonitoire qui n'annonce rien de bon pour lui. Et il a raison, car Dieu lui a fait savoir qu'il allait être jugé pour ses fautes et en particulier pour son hubris, son orgueil démesuré. En effet, dans son arrogance, il s'est fait une énorme statue et a exigé, sous peine de mort, que tous les grands de son royaume se prosternent devant elle et l'adorent. Il va sans dire que le Dieu des cieux, dont il est beaucoup question dans le livre de Daniel, n'apprécie pas ce genre de comportement. Ce qui est plus étonnant, par contre, est que l'Éternel décide d'intervenir et de s'occuper du cas Nabucodonosor, alors que d'habitude, Dieu ne prête guère attention à la plupart des autres rois idolâtres. Une des explications tient dans le fait que le prophète Daniel et ses trois compagnons d'armes, Shadrach, Meshach et Abednego, sont des hauts fonctionnaires qui font partie de la cour du roi de Babylone. Or, les trois amis que je viens de citer avaient eux aussi reçu l'ordre de se prosterner et d'adorer la statue, ce qu'ils ont refusé tout net parce qu'un tel geste aurait été une violation grave de la loi de Moïse. Nabucodonosor s'est alors emporté, comme il le fait chaque fois qu'on lui résiste, et a fait jeter les trois hommes dans une fournaise ardente, mais Dieu les en a délivrés. Il apparaît clairement dans le livre de Daniel que lui et ses compagnons bénéficient de la protection divine. Alors, si le roi de Babylone fait quoi que ce soit qui ait une incidence sur ces quatre Hébreux, l'Éternel intervient. Ce rêve prémonitoire est donc l'annonce d'un jugement, bien que pour le moment il soit encore différé. Seulement Nabucodonosor doit faire très attention à sa conduite, car désormais il se promène avec l'épée de Damoclès sur la tête, et c'est exactement le conseil que Daniel lui donne après avoir terminé l'interprétation du rêve. Je continue à lire dans le chapitre 4 du livre. « C'est pourquoi, ô roi, voici mon conseil. Puisses-tu juger bon de le suivre? Détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. » Mets un terme à tes injustices en ayant pitié des pauvres. Peut-être ta tranquillité se prolongera-t-elle. Verset 24. Le verbe traduit par « détourne-toi de tes péchés » a été rendu par « rachète tes péchés » dans la Vulgate, la traduction latine, ce qui a donné un argument à ceux qui enseignent qu'il est possible à un être humain de racheter ses péchés par des œuvres méritoires. Seulement le mot araméen ne veut pas dire racheter, mais rompre, briser, cesser, ce qui apparaît dans presque toutes les traductions modernes, y compris la version catholique, l'école biblique de Jérusalem, dite Bible de Jérusalem. Daniel, à qui Nabucodonosor avait simplement demandé de lui expliquer ce que son rêve signifiait, aurait très bien s'en tenir là. Mais son affection pour le roi le pousse à suggérer une solution, un moyen d'éviter le jugement. Nabucodonosor doit s'amender en modifiant son comportement. En effet, Daniel sait que les destinées de l'homme ne dépendent pas d'une fatalité aveugle et que les menaces de Dieu ne s'accomplissent pas d'une manière systématique, surtout quand celui qui fait l'objet de la foudre divine accepte de changer de conduite morale. Le prophète Ésaïe écrit que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Fin de citation. Daniel recommande donc au roi de Babylone d'une part de rompre avec le mal et d'autre part d'utiliser sa position et son pouvoir pour exercer la justice et la miséricorde envers les plus démunis, car ce sont là les deux principales vertus d'un bon souverain. Le conseil de Daniel est la seule façon pour le roi d'échapper au châtiment annoncé sous forme de menace dans son rêve. Je continue le texte. Tous ces événements s'accomplirent pour le roi Nabuchodonosor. Verset 25. Si ce roi avait cru Daniel, il n'aurait pas fait une crise de démence, perdu la raison et passé 7 années à brouter de l'herbe comme un bœuf ou un âne au milieu des troupeaux. Mais ce potentat était lié par son péché d'orgueil qu'il n'a pas pu abandonner. Après avoir entendu l'explication de son rêve, il était satisfait, mais n'en a pas tenu compte. Il l'a donc oublié et évidemment ignoré ce que Daniel lui avait conseillé. Mal lui en a pris. Dans sa grâce et en rêve, Dieu a donné un avertissement à Nabuchodonosor, puis du temps pour qu'il s'amende. Mais le roi a méprisé la bonté de Dieu à son égard, il a continué dans ses mauvaises actions, et comme aucune tuile ne lui tombait sur la tête, au contraire, tout allait plutôt bien pour lui et son royaume, il s'est dit que finalement cet arbre immense qu'il avait vu en songe, être coupé par les dieux ne présageait rien du tout, ce n'était qu'un rêve. Une des principales raisons pour laquelle beaucoup de gens continuent dans leur voie perverse nous est donnée dans un passage de l'Ancien Testament qui dit « Parce qu'une mauvaise action n'est pas vite sanctionnée, les hommes sont portés à faire beaucoup de mal ». Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, l'être humain, livré à lui-même, suit les penchants de sa nature mauvaise. Et bien que la peur du gendarme soit le commencement de la sagesse, notre système de justice n'en tient pas compte, ce qui fait que dans nos sociétés laxistes, on commet des actes ignobles en toute impunité, ou presque. Les délits, les meurtres et même les pires atrocités ne sont pas sérieusement sanctionnés. Au contraire, on défend avec acharnement les droits de ceux qui commettent des actes odieux et qui mériteraient le supplice de la roue. Entre les vices de forme, les circonstances atténuantes, l'incapacité mentale et qui sait quoi d'autre, il existe tout un arsenal permettant aux plus endurcis des criminels d'échapper à la justice. Et au pire, ils ont droit à une prison dorée aux frais de la princesse. Quant aux victimes, on s'en fout, ils n'ont qu'à subir. Dans ces conditions, rien d'étonnant donc si les délits de tous ordres ne font que s'accroître. La mentalité de Nabuchodonosor était « après moi, le déluge ». Mais ça n'a pas marché et tous les événements décrits dans son cauchemar vont s'accomplir. Je continue le texte. En effet, un an plus tard, il se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone. Il prit la parole et dit « N'est-ce pas là, Babylone la grande, que moi, j'ai bâti pour en faire une résidence royale ?» C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. Versets 26 et 27. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean utilise plusieurs fois l'expression « Babylone la Grande ». L'épithète « la Grande » se retrouve chez des écrivains anciens et semble avoir été la façon habituelle dont on appelait cette cité. Et sans exagération, elle méritait bien ce titre honorifique plus que toutes les autres villes de l'Antiquité. La fondation de Babylone remonte à l'époque qui suivit le déluge, mais d'après des inscriptions archéologiques, on sait que Nabuchodonosor a fait exécuter d'immenses travaux dans Babylone et ses alentours. Ces constructions grandioses avaient consisté d'une part à l'embellissement considérable de la cité ancienne et d'autre part à la construction d'une ville nouvelle sur la rive gauche orientale du fleuve Euphrate. Tous les écrivains anciens rendent témoignage à la magnificence de cette cité. Même le prophète Ésaïe l'appelle l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens. Les ruines qui en restent se composent surtout de briques marquées du nom de Nabuchodonosor. Les murs d'enceinte de Babylone étaient peut-être ce qui était le plus prodigieux et pour cette raison les Grecs les considéraient au même titre que les jardins suspendus parmi les 7 merveilles du monde. D'après l'historien Hérodote, qui visita Babylone après sa conquête par les Perses, les fortifications étaient construites en briques liées par du bitume. Ces murs avaient 90 mètres de haut, 22 de large et formaient un carré de 22 kilomètres de côté. Ce vaste espace était en partie occupé par des champs cultivés qui garantissaient de la famine cette cité embellie considérée imprenable, du moins en apparence. Babylone formait donc un carré qui était situé sur les deux côtés du fleuve Euphrate qui le coupait selon l'une de ses diagonales. En d'autres mots, la ville était constituée de deux triangles dont les bases longeaient chaque côté du fleuve. Elle était traversée du nord au sud par 25 rues parallèles larges de 45 mètres qui se croisaient à angle droit avec 25 autres rues identiques, ce qui faisait 50 grandes avenues. Par leurs entrecroisements, ces avenues formaient 625 places et 676 quartiers d'habitation. Les maisons avaient de 3 à 4 étages. Toutes les rues s'arrêtaient au bord du fleuve et étaient fermées par des portes d'airain, 100 en tout, 50 sur chaque berge. Le long des deux rives couraient des murs en briques qui reliaient les angles nord-ouest et sud-est de la grande muraille extérieure. Les deux parties de la ville communiquaient par un pont de 185 mètres de long qui reposait sur des piliers en pierre. Les poutres qui en formaient le tablier étaient enlevées le soir pour que ce passage ne devienne pas le théâtre de brigandage nocturne. Sur la rive gauche orientale se trouvait la citadelle royale de Nabucodonosor dont on a retrouvé les ruines. Selon l'historien juif Joseph et des inscriptions retrouvées, cet édifice magnifique formait un complexe de 13 hectares qui fut construit en 15 jours. Près de là se trouvaient les fameux jardins suspendus composés de terrasses superposées dans les voûtes desquelles on pouvait circuler. Eusèbe de Césarée, l'écrivain grec chrétien considéré comme le père de l'histoire religieuse, écrit que pour plaire à son épouse Amytis, originaire du pays montagneux de la Médie, le roi Nabucodonosor lui avait offert une colline artificielle de 120 mètres de haut comme lieu de promenade et de rafraîchissement. Cet endroit paradisiaque, construit à l'intérieur de la forteresse de Babylone, comprenait un ensemble gigantesque de terrasses construites sur des voûtes. Leurs ruines sont encore visibles aujourd'hui et s'étendent sur une surface de 15 hectares. Des machines hydrauliques faisaient monter l'eau du fleuve jusqu'à un réseau complexe de petits cours d'eau qui irriguaient la végétation. Ces jardins suspendus de Babylone font partie des sept merveilles du monde antique. Elles sont appelées ainsi parce qu'elles étaient considérées comme des réalisations artistiques quasi parfaites. Enfin, à l'angle nord-ouest de la ville de Babylone, du même côté que la citadelle royale, et la colline artificielle, se trouvait le grand temple de Bel, aussi appelé Marduk, la divinité équivalente à Jupiter, premier dieu des Romains, et assimilée à Zeus, le dieu suprême de la Grèce antique. Bel est également le même dieu que le Baal des Phéniciens dont les Écritures parlent si souvent. Ces deux noms, Bel et Baal, signifient aussi « seigneur ». Les monuments assyro-chaldéens attribuent à Bel le rang suprême comme Zeus chez les Grecs et l'appellent le père des dieux, le créateur, le prince de l'univers. Son nom entrait dans un grand nombre de noms propres chaldéens comme dans celui de Daniel appelé Belshazzar. Sur la rive occidentale droite du fleuve se trouvait le temple de Bel-Nebo, une tour colossale de 7 étages et qui, selon certains, avait 75 mètres de haut, et selon d'autres, 225 mètres. Vers la fin de l'Empire babylonien, Nebo, ou Nabu, était à côté de Marduk, c'est-à-dire Bel, le principal dieu adoré à Babylone. D'ailleurs, on les confondait volontiers. Nebo était considéré comme l'interprète divin, le dieu de la science et de l'écriture. Il correspond à Hermès chez les Grecs et à Mercure chez les Romains. On retrouve le nom Nebo ou Nabu dans celui de plusieurs rois comme Nabucodonosor ou son père Nabopolassar par exemple. Avec tous ces dieux et tous ces noms différents pour le même dieu, il y a vraiment de quoi se mélanger les pinceaux. Mais en réalité, tous les peuples antiques avaient à peu près les mêmes divinités mais ne les appelaient pas pareil. De plus, leur importance relative, les uns par rapport aux autres, ainsi que leurs caractéristiques, changeaient avec le temps, ce qui fait que pour nous, ces dieux forment un amas confus. Tous ces détails, un tant soit peu fastidieux, j'en conviens, montrent que Babylone offrait sur un seul site les monuments les plus imposants de la gloire de l'homme. Et comme c'était Nabuchodonosor qui avait fait de cette ville Babylone la grande, et une résidence royale digne de lui et de son empire, son orgueil ne s'explique que trop bien. Cet homme avait la folie des grandeurs. Alors qu'auparavant, il avait fait construire à sa gloire une statue plaquée d'or, maintenant c'est Babylone la Grande qui témoigne de sa majesté. Son orgueil et son arrogance ne connaissaient pas de limite. Un jour, de sa terrasse, il contemple la puissance et la beauté de Babylone, cette cité magnifique qu'il avait beaucoup embellie. Il exprime alors combien il est très satisfait de lui-même et fait la roue, sans tenir compte le moins du monde de l'avertissement qu'un an auparavant l'Éternel lui avait donné, ni du fait que, dans sa patience, il avait différé le châtiment. Au lieu d'utiliser ce temps à bon escient et se repentir, le roi a continué à faire le mal. Son orgueil éclate surtout dans cette déclaration « Par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté ». Le propre de l'orgueil qui se divinise est de se considérer comme l'auteur, l'instrument et le but, en un mot comme le centre de tout. Ce mouvement d'orgueil auquel le roi s'est abandonné à cet instant sur sa terrasse fut comme la goutte d'eau proverbiale qui fait déborder le vase. Maintenant, les dés sont jetés et l'heure du jugement a sonné. Pour un roi, se promener sur une hauteur et contempler sa capitale est une démarche malsaine parce qu'elle nourrit sa propre importance. David aussi était sur sa terrasse quand il a vu une jolie femme, l'épouse de l'un de ses officiers supérieurs. Mais comme il était roi, il s'est cru tout permis. Au travers des siècles, que ce soit dans le monde des affaires, de la finance ou de la religion, une multitude d'hommes, mais aussi des femmes, ont essayé de se construire un petit ou même un grand empire. Et quand ils réussissent, ils gloussent comme des dindons et oublient Dieu, bien évidemment. Jésus a mis en garde ses disciples contre ce travers quand il leur a dit « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que donnera un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. » Nabuchodonosor contemple sa capitale, gonfle la poitrine et dit « N'est-ce pas la Babylone la grande que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale ? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » C'est alors que le rideau tombe. Le texte dit « Ses paroles étaient encore sur ses lèvres qu'une voix retentit du ciel. « Roi Nabuchodonosor, écoute ce qu'on te dit. Le pouvoir royal t'est retiré, on te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes sauvages. Tu te nourriras d'herbe comme les bœufs. Tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. » Au même instant, la sentence prononcée contre Nabuchodonosor fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes, il se mit à manger de l'herbe comme les bœufs, et son corps fut mouillé par la rosée du ciel, sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle, et ses ongles ressemblaient aux griffes des oiseaux. Versets 28 à 30. La sentence commence à la troisième personne, une tournure empruntée aux édits royaux. Dieu se moque de ce soi-disant grand roi en lui annonçant son châtiment comme le ferait un suzerain à son vassal, et le jugement est sévère. Plus loin dans le livre, Daniel rappelle cet événement et précise que sa raison devint semblable à celle des bêtes, et il se mit à vivre en compagnie des ânes sauvages. Comme j'ai déjà dit, le roi était atteint de boanthropie, une maladie mentale dans laquelle la personne affectée se prend pour un bœuf et vit comme un animal, sans se soucier du tout ni de ses actions, ni de son apparence. Il est probable qu'à cause de sa position royale, Nabucodonosor fut caché dans un parc animalier loin des regards du grand public, afin que le moins de monde possible connaisse sa vraie condition. Il est également possible que ce soit Daniel qui ait organisé cette mise à l'écart discrète et assumé la direction du royaume en intérim. Autrement, il y a de fortes chances que le roi aurait été assassiné par l'un des nombreux aspirants au trône. Bien entendu, les annales babyloniennes n'ont pas retenu cet épisode peu glorieux du règne du grand empereur Nabucodonosor. Ce roi a voulu se faire Dieu, eh bien, le Dieu unique et vrai l'a fait tomber de son piédestal et l'a abaissé au niveau de la bête. Que cette chute vertigineuse et brutale me serve d'avertissement.